Merci de tourner en Philippiens chapitre 2, s'il vous plaît. Et il faut absolument se rappeler du contexte, parce que ce contexte est vraiment important, surtout quand nous lisons des passages aussi connus que nous allons voir ce soir. Parce que le danger, c'est que on connaît le texte. Et on a peut-être préférence de certains passages et on attend juste pour ces passages et si on oublie le contexte, on peut passer à côté des choses qui sont dites, qui sont très importantes et on perd le fil de pensée de l'auteur. Et c'est vrai qu'il n'écrivait pas ces choses comme un sage mystique et qui pense à des choses, il y a des phrases qui viennent et puis il attend pour une autre phrase qui vient. Non, il est en train d'écrire une lettre en fait. Et comme toute lettre, il y a dialogue, il y a conversation, il poursuit un argument. Et le verset clé qui nous donne le contexte, c'est en chapitre 1, verset 27, où il dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Et donc dimanche, on a vu pourquoi nous ne devons pas être intimidés, pourquoi nous sommes déjà engagés dans le même combat que Paul il a fait. Et maintenant, il passe à une autre exhortation toujours liée à cette même chose. Et il dit, s'il y a donc le mot « donc » renvoie à cette exhortation de se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour. Une même âme, une seule pensée. Alors lorsqu'il dit « s'il y a », ce n'est pas que « oh, peut-être il y a l'amour en Christ » ou « peut-être il y a de compassion, communion ». C'est plutôt un accent, c'est plutôt pour dire « puisque ». Il y a quelques consolations, ou comme il y a quelques encouragements dans l'amour. Et on peut même comparer ces quatre choses, consolation en Christ, encouragement dans l'amour, communion en Christ, compassion, miséricorde, avec les choses qu'il dit après. Puisqu'il y a ces choses, alors, fais-moi plaisir, il dit, mettez le comble à ma joie, afin qu'il y ait une même pensée. La consolation qui est en Christ, c'est Christ qui nous console dans les difficultés. Et si, et puisqu'il y a cette consolation qui est en Christ, les souffrances de Christ, alors, ayez une même pensée. Il n'y a pas besoin de division ou parti pris. Non, c'est la consolation qui est en Christ, avec cette souffrance commune. Ou bien, comme il y a un encouragement dans l'amour, et bien sûr, il y a encouragement dans l'amour. L'amour est tendre, l'amour est patient, l'amour parfois est ferme aussi, l'amour est décrit parfaitement en 1 Corinthiens 13, et puisqu'il y a aussi l'encouragement, il y a tendresse, il y a chaleur dans cet amour. Alors, il faut avoir un même amour. Que cet amour soit uni, toujours en Christ. Un même amour. L'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme nous dit l'Épître aux Romains. Un seul amour, ou bien comme il y a effectivement communion de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, pas les Esprits de Dieu, mais l'Esprit de Dieu. Un seul Esprit qui nous remplisse, qui est en nous tous, qui nous ont tous scellés pour le jour de notre rédemption. Et il y a communion avec Dieu, c'est par l'Esprit effectivement que c'est son Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Mais il y a aussi communion entre nous. Alors, ayez une même âme, restez ensemble. Et puis, puisqu'il y a compassion et miséricorde, parce que ce sont des choses les plus importantes dans le royaume de Dieu, dans l'enseignement de la Bible, ayez une seule pensée. Pas une pensée qui critique et qui démente les choses que veut dire autre pour se mettre en avance. Non, ça, c'est plusieurs pensées et parfois des pensées concurrentes. Non, non. Ayez la pensée. Et quelle pensée? Parce que, bon, bien sûr, Paul, il ne demande pas que nous divorçons notre intelligence. Quelle pensée, donc, est-ce qu'il faut avoir? Il va répondre à ça. En verset 5, il va dire « avoir la pensée qui était en Jésus-Christ ». C'est Jésus-Christ qui réunit ces choses, mais d'abord, il est en train de parler de la méthode. C'est la méthode que nous prenons pour se conduire d'une manière digne de l'Évangile. La méthode, c'est par cette même amour, c'est par cette communion de l'Esprit, c'est par cette compassion, cette miséricorde. C'est comme ça que nous nous conduisons d'une manière digne. Il va encore plus loin, parce que ces choses-là, on peut penser avoir cette même pensée. On peut penser que, ah oui, je glorifie Christ et j'ai l'amour de Dieu répandu dans mon cœur et tout. Et puis, tomber dans le quotidien à verset 3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Et ça, c'est vraiment ce style de Paul, très clair, très naturel, pragmatique, pratique. Voilà, si vous avez la consolation de Christ, si vous avez l'amour de Christ, si vous êtes une personne qui est remplie de sa miséricorde, de sa compassion, la rivalité, ça doit être laissé à côté. Par contre, on fait des choses souvent par rivalité. Et il ne faut pas penser que chaque personne qui fait quelque chose pour l'Église, s'il fait quelque chose il est poussé pour le faire, c'est parce qu'il rivole les autres. Mais parfois, la rivalité est beaucoup plus subtile, surtout dans le cœur des pécheurs, comme nous. Par exemple, je fais quelque chose où j'ai cette idée et peut-être ça vient de Dieu. Et ça, c'est une belle chose, mais vous connaissez l'histoire. On pense à cette œuvre, ou peut-être on le fait et ça se passe bien. Et oui, on pense, ça c'est assez bien. Et puis bon, c'est peut-être mieux de ce que j'ai vu ailleurs. Et puis voilà, la rivalité. Et si c'est nourri dans notre cœur, c'est là où tout est perdu. C'est la vaine gloire. L'homme n'est pas créé pour recevoir la gloire, mais pour donner la gloire. Et toute gloire que nous recevons et que nous essayons de garder pour nous-mêmes est une vaine gloire. C'est creuse. C'est, bien sûr, aimé par le monde, mais c'est rien devant Dieu. Par contre, qu'est-ce qu'il veut? L'humilité. Et qu'est-ce que c'est l'humilité de toute façon? Estimer les autres supérieurs à vous-même. Alors, ça ne veut pas dire que on a une mauvaise image de soi. Pourtant, il n'a pas dit pensez que vous êtes la pire des personnes sur la terre et que vous n'avez aucune valeur dans cette ville. Non, il n'a pas dit ça. Soyons honnêtes avec qui nous sommes. Mais il faut estimer les autres avant nous. Oui, je suis qui je suis, j'ai des bons points, j'ai des mauvais. Et c'est, s'il y a quelque chose de bon, bah, Dieu il m'a donné des talents aussi. Oui, ok, d'accord. Mais l'humilité, c'est estimer les autres avant nous. Et le contraire de ça, c'est la rivalité. La rivalité est estimer moi avant les autres. Et quel est le résultat des rivalités? Nous avons cette réponse en Jacques chapitre 4. Donc en Jacques 4, nous lisons verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est-à-dire, vous restez sur vos passions, sur la chair, et vous ne mettez rien en prière. Normalement, si on prie réellement, oui, nous venons devant Dieu, lavés par le sang de Christ, et c'est par la prière que le Seigneur, il œuvre dans notre vie et il corrige notre façon de penser et il nous change. Vous demandez, il continue, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Voyez, il y a cette frustration, ces arguments, ces partis pris, ces rivalités. D'où vient tout ça? De nos passions, de la chair, du péché qui est en nous. Et ces choses-là ne sont pas dignes de l'évangile de Christ. Et donc il dit, chapitre 4, verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est la même chose, mais dit autrement, mais c'est encore plus précis. Considérez ce que veulent les autres. Ça, c'est en gros aussi la vie conjugale. C'est comme ça qu'on fait marcher la vie du couple, de marier. Si c'est chacun pour soi, on rencontre des problèmes très rapidement. Mais ça marche aussi dans l'Église. Et justement, c'est enrichissant lorsque on écoute les autres. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés comme un corps. Et là, je m'appuie sur les passages en 2 et 14, les chapitres 12 et 14 de 1 Corinthiens, où Dieu a fait tout un corps avec des différents membres, avec des différentes fonctions, des différentes manifestations de son esprit. Mais chacun est différent. C'est quand même le Saint-Esprit qui donne à chacun selon son grâce, selon ce qu'il veut, parce qu'il est souverain, et puisqu'il est l'Esprit de Dieu Saint. C'est donc lui qui le fait comme il le veut. Et donc, c'est très enrichissant. Et c'est même puisé dans les ressources de Dieu. Si nous considérons ce que veulent les autres, c'est comme ça que les gens puissent utiliser leurs dons et que l'Église puisse fonctionner comme il le veut. Et c'est la méthode encore pour se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Et voilà la méthode. Et maintenant, il passe à l'exemple. Quel est l'exemple de quelqu'un qui marche digne de cet Évangile de Christ? L'exemple, c'est Christ lui-même, puisque c'est son Évangile. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Et c'est là où ça commence. Il est le seul exemple. Il est celui qui exemplifie tout. Il est le seul qui avait la plénitude de tous les dons de l'esprit. Et si vous voulez voir ce qui plaît à Dieu, vous n'avez que regarder à Christ et rester dans l'admiration totale. Mais c'est lui qui nous inspire, puisqu'il est le chef. Et Paul, il va utiliser maintenant ce que certains pensent est peut-être une des plus anciennes hymnes de l'Église. Et c'est intéressant parce que c'est rempli de beaucoup de doctrines. Et certains experts pensent que c'est Paul qui l'a créé, d'autres disent non, que c'est écrit par les apôtres le lendemain de la résurrection. Mais c'était quelque chose que l'Église de Dieu connaît. D'ailleurs, je pense que c'est un peu dommage qu'on n'a pas une mélodie à donner à cet hymne pour aujourd'hui. Ça serait bien de pouvoir le rechanter à nouveau, que ça voit encore le jour, l'ancien hymne, que ça reprend encore des ailes. Bon, je ferme ma parenthèse, c'est juste mon point de vue, alors vous pouvez l'écarter. Mais en ce qui concerne juste ce passage, il est rempli des doctrines que connaissait la première Église. Et si vous voulez, c'est un document historique phénoménal qui nous aide à écarter beaucoup de mauvaises doctrines, même aujourd'hui. Et ça nous aide surtout lorsque nous lisons les articles qui sortent dans le monde des religions, ou le point, ou tous ces articles qui sortent juste avant de Pâques et les grandes fêtes chrétiennes, qui veulent nous faire croire que les disciples ont tout inventé, ou les chrétiens ont tout inventé des centaines d'années après les faits. Non, en réalité, ces choses sont beaucoup plus proches des événements réels. Et nous avons encore devant les yeux un document historique qui nous aide à comprendre que la doctrine chrétienne pure n'a pas beaucoup changé. Et c'est normal, puisque c'est le même Christ. Christ est le même hier, aujourd'hui, comme il le sera pour toujours. C'est justement quand il y a des nouveautés où il faut craindre. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc on va doucement. C'est une chanson, et puisque c'est une hymne, on pense que c'est une hymne, ils disent des choses poétiquement. C'est une doctrine pure et simple. D'ailleurs, Wesley a dit que l'Église chantera la hérésie bien avant qu'elle la prêchera. Ici, nous avons une chanson bien en ce qui concerne la doctrine, et ça commence à parler de la condition de Christ avant son incarnation. Condition, ça revient à des mots en grec qui parle donc de sa forme, de qui il était, qu'il est, et sa forme est celle de Dieu. Et il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ça, c'était toujours une phrase qui m'a mis un petit peu, m'a donné un peu la confusion. Parce que la façon que c'est dit, c'est poétique, mais ce que ça veut dire tout simplement à la base, c'est que il n'a pas considéré que c'était un vol d'être égal avec Dieu. Si on veut réduire et le dire encore plus simplement, il était Dieu, la forme de Dieu, bénéficiant donc de tout la majesté, la grandeur, la splendeur, tout. Il est Dieu. Et avant l'incarnation, ce n'était pas un vol, ce n'était pas une insulte, ce n'était pas inexact de dire qu'il est Dieu, qu'il était Dieu. Mais, même s'il était dans cet état glorieux, parfait, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme ou dans la figure d'un homme. C'est-à-dire que dans toute sa majesté et dans toute sa gloire, il a, comme dit la chanson de Graham Kendricks, il a mis à côté sa majesté. Il reste qu'il était. En disant il s'est dépouillé de lui-même, ça ne veut pas dire qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Jésus est le même, aujourd'hui, hier, comme il était. Mais il est devenu un homme. Et là, on dit, en prenant la condition d'esclave, parce que les hommes, les enfants d'Adam et Ève, nous sommes dans un monde perdu, nous sommes donc esclaves du péché. Mais lui, il n'a pas péché, attention, il était parfait. Mais il a pris notre condition, c'est-à-dire notre chair. Et justement, ça a été un tel abaissement que vu où il était, dans sa grandeur, dans sa toute puissance, omniscient, omnipotent, il est devenu un simple homme. Et pour nous aider à comprendre ce que c'est, c'est comme dans le monde des hommes, le plus puissant président, si vous voulez, chef d'État, qui enlève son beau costume Prada ou ce que vous voulez, et il met des habits, des haillons en fait, et devient, il prend des chaînes pour devenir un esclave. Mais c'est encore plus, puisque nous parlons de Dieu. C'est incomparable sur cette terre et sur la vie que nous connaissons ici pour bien décrire la profondeur à laquelle il s'est abaissé en devenant semblable aux hommes. En Ésaïe 53, la description qui nous est donnée, c'est il n'y avait rien en lui qui attirait l'attention. Ce n'est pas comme les beaux tableaux qu'on voit au Louvre, où il y a des espèces de rayons qui sortent de sa tête. Non, il n'y avait rien de ça. Il était un simple homme, un charpentier. Encore plus, un charpentier, un simple charpentier. Le créateur des cieux et de la terre se limitait à travailler avec quoi, un marteau. Et même pas des outils aussi sophistiqués que nous avons aujourd'hui. Et ça, pendant toute sa vie. Et ce que nous voyons en ce qui concerne la doctrine, c'est que dès le départ, l'Église croyait que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Et il est nécessaire qu'il soit 100% homme et 100% Dieu à la fois, afin d'accomplir sa mission. Et Paul, il continue. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Encore plus, il s'humilie encore plus en tant que Dieu. Il n'a pas à obéir. Il est celui qui donne les ordres. Il est le créateur. Mais il s'est humilié à qui? Au Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le Père. Et ça se voit dans tout l'évangile selon Jean. Quelqu'un qui m'a vu a vu le Père, Jésus a dit. Il a tellement dépendé sur le Père. Il ne faut pas imaginer, comme disait John Corson, que c'était comme un jour dans le ciel, il avait un petit argument, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et puis il faisait un petit jeu, on voit alors qui va, qui, qui va y aller, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un. Et puis, hop, le Père et le Saint-Esprit se sont alliés ensemble pour envoyer Jésus. Non, non. Jésus, il est allé de sa propre volonté. C'est lui qui s'est humilié. C'est lui qui est allé en obéissant au plan de Dieu. C'est déjà une grande chose qu'il est même venu parmi nous. Et ça, c'est pourquoi il y avait ces moments dans sa vie où le Père, il a affermi son fils audiblement en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé » lors de son baptême. Sur la montagne, la transfiguration, aussi juste avant sa crucifixion. Mais il était obéissant jusqu'à la mort. Celui en qui il y a la vie a passé par la mort. Quel outrage! Quel scandale! Mais pourquoi l'a-t-il fait? C'était pour nos péchés. La mort sur la croix. Lui, en tant que la parole de Dieu, la loi de Dieu écrite pour lui, c'est lui qui a donc inspiré Moïse à écrire que c'est lui qui mort sur un arbre est maudit. Alors ce même Dieu et homme meurt sur cette croix de malédiction, malédiction pour nous, parce que nous sommes tous errants comme des brebis, chacun a suivi sa propre voie. Mais l'Éternel a mis nos iniquités sur lui. C'est lui qui a porté nos transgressions. C'est lui donc qui a pris toutes ces choses-là. Obéissons jusqu'à la mort. Encore pire, la mort misérable, exécrable, maudite. Mort sur la croix. Et ça, c'est pourquoi il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que Jésus-Christ a pris notre condamnation. Alors, avec ceci, nous voyons l'exemple de Jésus comme celui qui marche d'une manière digne de cet évangile. La pensée de Christ. Et en cette pensée-là, ça est tellement radical, tellement révolutionnaire, et même en pensant, je me suis dit, mais c'est impossible qui est à la hauteur. Personne, il n'y a que Christ. Il est l'exemple. Mais si j'adopte cette idée-là, il faut que je commence à bannir les petites phrases comme, ah oui, mais j'ai mes droits. Quels droits? Christ, il les a a banni, les a mis à côté. Ou bien, les choses aussi où je cherche à me valoriser. Il n'a pas cherché à se valoriser. C'est vrai que tout ça, c'est en vue du ministère, en vue de la croix. C'est révolutionnaire. Mais nous savons aussi que nous vivons encore dans un monde. Et dans ce monde, il faut que vous travailliez, il faut que vous soyez dans le monde et que vous participez dans ce monde. Il est intéressant aussi que Christ a travaillé. Lui qui avait tout ça, mais que même en Luc 2, verset 51, nous lisons qu'il s'est soumis à ses parents et il a travaillé ce travail en tant que charpentier. Alors que chacun s'examine soi-même, je pense que, ayant la pensée de Christ dans le contexte, nous parlons de l'Église. Et c'est surtout dans l'Église, mais ne pensez pas une seconde que Paul veut que nous soyons comme ça à l'Église, et puis dès que nous quittons, franchissons les portes, que nous faisons ce que nous voulons. La vie chrétienne est pour nous inonder en fait. Et c'est bien donc de se tourner vers Christ en confessant nos incapacités, nos fautes, nos défaillances en demandant qu'il nous dirige, qu'il nous transforme. Que, surtout que la transformation ne se fait pas par nous-mêmes, parce que ça va être une vision perverse de la chose. Non, non, que ça soit lui qui nous transforme, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et petit à petit, il nous aide. Et puis, sachant donc qu'il a fait ça, alors cet exemple nous montre maintenant une direction. Et c'est pourquoi, verset 9, « Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Pourquoi est-ce que Dieu l'a souverainement élevé? Parce qu'il s'est humilié. Et voilà ce que je trouve intéressant, c'est que chaque fois que nous voulons nous mettre en avance, ce que nous cherchons, c'est justement être élevé. Or, la façon de trouver grâce aux yeux de Dieu et des hommes, ce n'est pas la meilleure, enfin, c'est pas la manière que l'on pense. Oui, oui, c'est vrai que parmi les gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, la meilleure manière, c'est une manière écrasante et les gens, ils se piétinent dessus. Ça, c'est pour ceux qui sont les fils du diable. Ce n'est pas pour vous si vous êtes une fille ou une fille de Dieu. Vous répondez à un appel plus haut. Vous avez un roi et votre roi a montré par sa vie une meilleure manière qui est éternelle. Et celui qui s'humilie, Dieu fait grâce à cette personne. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, quel est ce nom? Un nom, lorsque nous parlons de cette manière de réfléchir orientale, plus spécifique, israélite, juive, c'est pas seulement le nom, mais il y a toute sa personne. Et il a donné donc ce nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est son nom? C'est dit verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Mais il a mis quelque chose, ajouté quelque chose à ce nom, parce que à l'époque, le nom Jésus était un nom assez commun. C'est comme Pierre, enfin, Jean, enfin, c'est un nom commun. Mais le nom de Jésus, ah oui, le nom de Jésus, même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a quelque chose dans ce nom. Pour certains, c'est vraiment l'odeur de la mort. On ne veut même pas entendre ce nom. Mais le nom de Jésus, pour ceux qui le connaissent, le nom de Jésus est le plus beau, le plus doux des noms. Il y a quelque chose dans ce nom. Je vous donne un autre exemple. Avant les années 30 et 40, le nom Adolphe était un nom assez commun. Et franchement, si on suit l'essence de ce nom, Adolphe, c'est quand même un joli nom. Ça veut dire frère. Mais on n'appelle plus nos fils de nos jours Adolphe. et voilà, un nom, ça répète des choses. Autant, et encore plus, que Adolphe est devenu un nom pour parler de l'ignomie et des choses méprisables. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Grand et doux et puissant. Le nom qui veut dire l'Éternel sauve. Souverainement élevé au-dessus de tout nom. Parce que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Déjà tous les anges du ciel s'inclinent devant Dieu, devant Christ. On se rappelle justement juste des séraphimes qui volent autour du trône de Dieu en criant « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel. En Ésaïe, nous les voyons, ils voient le visage et les pieds. En Apocalypse, les 24 anciens qui tombent devant leur face contre terre, devant celui qui est sur le trône. Jésus maintenant qui est assis à la droite de Dieu, il a reçu ce nom qui est au-dessus de tout nom. Sous la terre, on a un peu pensé aux démons. Est-ce que les démons s'inclinent devant Jésus? Nous avons vu dans les évangiles qu'ils tremblent devant lui. En fait, même selon certains commentateurs, en Marc 1, verset 13, lorsque nous parlons de Jésus qui est renvoyé dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté, nous lisons que les anges l'ont servi. Et puis, il y a cette petite phrase, et les bêtes sauvages. Certains commentateurs pensent que même les bêtes sauvages ont été soumises à lui. Mais si c'est le cas, nous voyons donc que les anges s'inclinent. Même les démons tremblent dans sa présence. Les animaux, ouais, de toute façon, il n'y a pas un moineau qui tombe à terre que le Père ne connaît pas. Les animaux sont soumis à lui. Qu'est-ce qu'il y a qui reste? Les hommes. Il semble que tout l'univers agit dans le moindre de ses paroles. Il n'y a que les hommes qui se rebellent. Mais pas pour toujours. Un jour, tous genoux, ceux qui sont passés, même comme ceux qui sont déjà avec le Seigneur, lorsqu'il revient, lorsqu'il juge, tout genou fléchira. Mais comment vont-ils l'appeler? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Seigneur, si on est forcé à s'agenouiller devant Jésus, il n'est pas sauveur. Non, c'est le type de Seigneur, de conquérant. Et ils vont être obligés de le reconnaître. C'est vrai, comme dit John MacArthur, qui a fait une très belle illustration de comment, dans la langue hébreu, on a perdu certains voyelles pour qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu qui nous a donné. Et le nom qu'on traduit en français par l'Éternel. Mais lorsqu'on prononce ce nom en hébreu, on ne dit pas Jéhovah, mais on dit le mot qui se traduit par Seigneur. Et même si le mot qui se traduit par Seigneur s'écrit totalement différent, on le saute et on le met toujours systématiquement. Seigneur, ce mot. Et ça renvoie en fait à qui est Jésus. Il est Dieu. Il est Seigneur. Et souvent ce mot Seigneur, je crois qu'il perd un petit peu sa force. Celui qui vit à la manière de l'évangile de Dieu, il sert un Seigneur. Et s'il est réellement Seigneur, c'est lui qui nous dirige, nous suivant ses commandements. Il est Seigneur. Et nous nous inclinons. La chose glorieuse, c'est que si nous sommes en Christ aujourd'hui, nous nous inclinons maintenant par notre propre volonté. Et notre Seigneur est aussi notre Sauveur. Un jour, tout le monde le reconnaîtra pour qui il est le Seigneur. Ça, c'est donc la direction où on va. C'est que tout va glorifier Dieu. La terre sera remplie de la gloire de Dieu. Dieu sera toujours glorifié. Et nous glorifions Dieu le Père par Jésus-Christ. C'est la gloire de Dieu le Père. Comme nous avons dit, l'exemple est tellement haut. C'est tellement au-delà de nos capacités. Comment, franchement, est-ce que moi, comment est-ce que j'ai une espérance à le faire comme vous? Comment est-ce que vous allez le faire? Il y a versets 12 et 13 qui répond à cette question. D'où vient la force? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut ou bien mettez votre salut en action. On peut aussi le traduire comme ça. Avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est un de ces versets que si vous êtes calviniste au fond, vous l'utilisez. Si vous êtes arméniste au fond, vous l'utilisez. Et si vous êtes entre les deux, vous l'utilisez. Parce que on peut voir les choses des deux côtés. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire pas que nous méritons notre salut en travaillant. Attention, ça serait un contresens et ça va contredire ce qui est dit ailleurs. Ça, c'est pourquoi j'aime mieux cette formulation. Mettez votre salut en action. Vous êtes sauvé, alors vivez en tant que tel. Travaillez donc en tant qu'enfant de Dieu avec crainte et tremblement. Prenez les choses au sérieux. Et nous servons le Dieu vivant. Non seulement comme si j'étais présent, mais encore plus quand je suis absent. Donc d'abord, en prenant les choses au sérieux, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Et voilà, la force vient de lui. Si vous avez le moindre désir de suivre Dieu, ça vient de lui. Alors, obéissez-le et vivez pleinement votre salut. Parce que c'est lui qui vous donne ce désir, c'est lui qui vous donne la force de le faire. Alors si vous le faites, ne le faites pas par vous-même, mais par l'Esprit qui est en vous, l'Esprit de Dieu et sa force tout puissant. Et c'est ainsi que vous allez accomplir donc cette direction. Vous allez dans cette direction si vous travaillez dans l'Esprit. En étant rempli du Saint-Esprit, vous allez glorifier Dieu. Et si vous êtes rempli de son Saint-Esprit, vous cherchez à être continuellement rempli du Saint-Esprit, vous allez marcher à l'exemple de Christ, même au travail, surtout au travail. Vous suivrez les méthodes données dans la Bible, les méthodes telles que l'amour, la compassion, l'unité de l'Esprit. Et ça, vous le ferez pas grâce à vous, mais grâce à celui qui travaille en vous, à la gloire du Père. Prions.